grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Bien souvent, au début d'une histoire d'amour, nous nous berçons d'illusions. Deux êtres unissent dans l'insouciance leur cœur et leur compte bancaire avec l'idée de tout partager. Car paraît-il, quand on aime, on ne compte pas. Les euros ne doivent pas entamer l'éros du couple. Hélas, l'un des principaux motifs de discorde de la vie à deux, c'est bel et bien l'argent, le fric, le flouze, la thune. Tôt ou tard, la gestion du budget, les recettes et surtout les dépenses s'invitent dans un ménage à trois qui peut très vite tourner au vinaigre. Premier prix, nous verrons que le généreux « tout ce qui est à moi est à toi » se fracasse sur le bon vieux principe de réalité qui fait voler en éclats la sérénité des amoureux. Pour éviter les disputes et les rancœurs, mieux vaut anticiper toutes ces questions financières, se préparer à l'orage, bref, dialoguer. Pax, mariage, union libre, on s'intéressera également aux différents régimes du couple qui ont un impact sur l'épineuse question de l'argent. Et on verra également ce qui est commun et ce qui ne l'est pas, une question centrale afin que l'argent ne devienne pas un tue-l'amour. Pour nous éclairer ce matin, Héloïse Boll, spécialiste des questions d'argent, Maître Élodie Mulon, spécialiste du droit de la famille et du patrimoine, et Fabienne Kramer, spécialiste du couple. Avec nous également, Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle. Et vous, comment gérez-vous votre argent dans la vie à deux? Quelles sont les sources de discorde les plus récurrentes? Dites-nous si l'argent fait bon ménage dans votre couple. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali Réveille.
Qui sort de sa retraite bretonne pour assurer ses choses vues cette semaine. L'argent dans le couple, ça vous parle?
Beaucoup. Je vous parlerai justement des voiles de l'amour et des poches des linceuls. Et je ne ferai pas trop le malin parce que mon épouse m'a dit qu'elle allait écouter.
Et on la salue. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bienvenue à nos invités. Bonjour Héloïse Boll.
Bonjour.
Vous dirigez une société en conseil en patrimoine et vous publiez au Cherche Midi les bons comptes font les bons amis pour que couple et argent fassent.
Amant.
Oui, et bon, font... qu'est-ce que j'ai dit?
Amis.
Et oui, oui, mais effectivement, c'est pas pareil. Les bons comptes font les bons amants, c'est le titre de notre livre, sous-titré pour que couple et argent fassent bon ménage. Bonjour Maître Élodie Mulon.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Paris, secrétaire du Conseil national des barreaux. C'est quoi le Conseil national des barreaux?
C'est l'organe qui représente nationalement les avocats.
Et vous présidez l'Institut du droit de la famille et du patrimoine. Bonjour Fabienne Kramer.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et spécialiste du couple. Alors, en préparant cette émission, un chiffre m'a étonné, Héloïse Boll. Selon une enquête du Crédoc, 97% des personnes interrogées se disent satisfaites de l'organisation financière du couple. C'est trop beau pour être vrai, ce chiffre.
Ça me paraît totalement surréaliste en réalité. Faites le tour un petit peu de vos amis, votre entourage assez proche et demandez-leur comment ils s'organisent. Vous allez voir qu'assez vite, une petite faille va émerger et on va en entendre un ou deux dire « Ah oui, on n'en a pas parlé » ou « On n'a jamais vraiment réglé ça, mais enfin c'est pas grave, on s'entend bien, dans l'ensemble ça va bien. » Et le problème c'est que finalement... la petite chose qui n'a pas été réglée peut avancer et prendre des proportions assez folles et amener à des disputes beaucoup plus lourdes.
Alors c'est un chiffre trop élevé hein, qui prouve que l'argent dans le couple est tabou, Maître Élodie Mulon.
Oui, c'est vrai ce que disait Héloïse tout à l'heure. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand les gens divorcent, ressortent tout l'historique monétaire du couple. Mais ça prend des proportions parfois qui sont... Enfin, moi, je trouve ça assez drôle parce que c'est ubuesque. Enfin, des choses toutes simples dont ils n'ont pas parlé, des comptes qui ont été faits qui sont vraiment parfois des comptes d'apothicaire, mais à un euro près. Vous avez des listes. Vous demandez comment les gens ont pu même vivre si longtemps ensemble en calculant comme ça.
Fabienne Kramer, on ne parle pas assez d'argent au sein du couple?
Eh ben, on n'en parle quasiment pas en réalité. D'ailleurs, le 97%, je pense que si on posait la question aux gens au niveau de la sexualité, on obtiendrait le même chiffre. Parce que je crois qu'il y a vraiment symboliquement un parallèle entre le sexe et l'argent dans le couple. Et c'est aussi tabou l'un que l'autre. Et on en parle très rarement ensemble. Et je crois que c'est justement l'idée de l'émission, peut-être, c'est d'aider les gens à en parler dans le couple.
Fabienne Kramer, dans le couple, l'argent est inconsciemment perçu comme salissant la relation amoureuse, qui est perçue comme pure et désintéressée. Parler d'argent dans le couple, c'est pas très romantique. Il y a un côté boutiquier digne d'un roman de Balzac, hein.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si c'est la femme qui décide, dans un couple hétérosexuel ou même dans un couple homosexuel, mais si c'est la femme qui décide d'en parler, on va la trouver intéressée. Et si c'est un homme qui décide d'en parler, on va le trouver mesquin. Donc, quelque part, le sujet est jamais abordé de façon anodine et il y a toujours beaucoup une empreinte émotionnelle qui se met en place quand on commence à parler d'argent. Donc, c'est pour ça que moi, j'invite les couples que j'ai à prendre rendez-vous une fois par an pour faire le bilan financier du couple, pour essayer de voir où on en est, qui a payé quoi. Alors, c'est une journée un peu désagréable, mais au moins, si elle est programmée, elle est plus simple. Au moment où on fait les impôts, c'est peut-être l'occasion d'en parler clairement. Et Louise... pas avoir à trop en parler.
Et Louise Boll, c'est l'absence de dialogue sur l'argent qui génère des rancœurs, des ressentiments.
Absolument, parce que ne pas en discuter, c'est automatiquement générer des malentendus qui vont s'installer dans la durée. Donc l'idée de faire un point régulièrement en disant « bon, bah là, cette fois-ci, c'est moi qui ai payé ça, toi, tu payeras le mois le prochain » ou enfin de faire en sorte qu'on ait une discussion sur une sorte d'équilibre entre les deux membres du couple, c'est une très bonne solution et c'est très important de le faire assez régulièrement, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un gros changement, quand l'un passe à mi-temps, quand l'autre se retrouve au chômage, quand l'un monte sa boîte. Enfin, il y a des étapes dans lesquelles il faut refaire le point parce que les équilibres vont changer, quand il y a l'arrivée d'un enfant aussi.
Élodie Mulon.
La difficulté, elle est double. Elle est d'abord très liée, en fait, aux Français. Dans plein de pays, vous avez des contrats prénuptiaux qui font que même on organise la fin du couple. En France, c'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre, alors qui va peut-être arriver, je le souhaite. Mais déjà, ça traduit un sentiment de malaise avec l'argent et la prévision. L'autre, c'est dire qu'on va faire le point tous les ans suppose qu'on est à égalité. Or, en réalité, dans un couple, on se rend compte qu'il y en a toujours un qui mène la danse. Et c'est ça qu'on retrouve qui est difficile à la fin. C'est que celui qui a subi, en fait, se révolte.
Marie-Laure Zonschein de Femme Actuelle.
Il y a un paramètre absolument consternant, on l'oublie un peu, mais c'est seulement depuis 50 ans, 1965, que les femmes ont le droit d'ouvrir un compte bancaire. Donc, quelle est la portée, le poids finalement de ce paramètre historique, culturel français, dans ces relations dans le couple entre femmes et hommes sur la question de l'argent?
Il est lié à ça, mais il est lié en fait à autre chose qui est la position de la femme dans le couple encore. Et on le voit aujourd'hui, et c'est un peu la suite de ce que vous dites, depuis que les femmes travaillent et revendiquent le fait de travailler et gagnent leur vie, les équilibres de couple sont totalement transformés. Moi, je vois les gens qui viennent me voir. Les femmes aujourd'hui ont le droit de divorcer. D'accord? Enfin, ont le droit de divorcer, en tout cas prennent le droit de divorcer parce qu'elles ont les moyens. Il y a encore quand même, avant 2004, celui qui avait fauté, d'accord? Donc si la femme prenait un amant parce qu'elle en avait marre, si elle n'avait pas travaillé, elle n'avait pas le droit d'une prestation compensatoire. C'est-à-dire qu'elle sortait sans rien. Donc on voit que l'argent, c'est pas uniquement les comptes, c'est aussi une sanction. Voilà, donc c'est vraiment l'argent et le couple, c'est un sujet qui est très varié.
Fabienne Kramer.
Oui, en général, moi j'ai beaucoup de couples expatriés dans ma clientèle. Il y a un moment donné où la vie amène la femme à faire des enfants et l'homme à suivre sa carrière. C'est quand même encore une réalité, une constante. Et à ce moment-là, moi j'ai remarqué qu'on ne parle pas trop du phénomène d'argent. On se dit, oui, mais c'est normal, il y en a un qui travaillera, il paiera pour la maison, etc. Et puis quand les choses vont moins bien, et c'est quand même un couple sur deux qui divorce aujourd'hui, quand les choses vont moins bien, on s'aperçoit que l'homme, là, il reprend les comptes et il dit, ah oui, mais ça, c'est moi qui l'ai payé, ça, j'ai payé ça, toi, tu faisais quoi pendant ce temps-là? On reste quand même entre deux époques, je dirais, où la femme reste pendant une grande partie de sa vie en majorité, dépendante financièrement des hommes.
Héloïse Boll.
Oui, et en général, dans ces situations-là, la phrase qui fait très mal, c'est « Et toi, pendant ce temps-là, tu n'as rien fait ». ce qui est quand même un comble. Mais de toute façon, oui, il y a cette façon d'instrumentaliser l'argent dans un couple qui est malheureusement assez fréquente et contre laquelle il faut lutter parce que aujourd'hui on fait des mariages d'amour, on ne fait plus des mariages d'intérêt, on n'épouse plus le fils du voisin pour agrandir ses terres. Néanmoins, c'est pas une raison pour ne pas essayer de protéger un peu ses intérêts en cas de souci et ne pas subir une personne qui finalement va décider de vous couper les vivres.
Christophe André.
Oui. C'est vrai que c'est un peu comme si nous étions passés d'un extrême à l'autre du mariage arrangé qui avait cours jusqu'au 19e siècle dans la plupart des sociétés. En Occident, on se mariait pour se prémunir contre l'adversité, pour associer un peu nos destins matériels. L'amour n'avait rien à faire. Et là, on est passé à une vision très romantique, en tout cas dans nos inconscients au moins, de l'amour qui ferait qu'on le souille, comme disait Ali Rebéi tout à l'heure en parlant d'argent. Moi, j'ai beaucoup aimé dans votre livre, le petit questionnaire qui est page 22 et 23.
Très intéressant.
Parce que je me suis dit, bon sang, mais faire ça quand on décide de se mettre en couple, c'est vrai que c'est pas hyper poétique, mais c'est très sain. Ça force à aborder des sujets sur qu'est-ce qui nous rapproche, qu'est-ce qui nous éloigne dans la vision de l'argent, quelles sont nos histoires respectives. Ça force à aborder des sujets dont on sait qu'ils vont, sinon, empoisonner des petits moments. Et puis, alors, si un jour, malheureusement, une séparation, c'est toujours vraiment le truc qui fait exploser la possibilité de séparation à l'amiable, ces histoires-là, j'ai l'impression, en tout cas, peut-être.
Alors, ce questionnaire aide à y voir plus clair sur les points communs et les divergences en matière d'argent. Un test à faire à deux. Alors, parmi les questions, préférez-vous vous priver ponctuellement d'un train de vie confortable pour constituer ou reconstituer une épargne de sécurité et ainsi vous mettre à l'abri d'un coup dur? De quel matelas d'économie avez-vous besoin pour vous sentir à l'aise? 1000, 5000, 10 000 ou 100 000 euros, etc., etc. C'est important de façon très prosaïque, de se poser ces questions.
C'est important de se les poser parce que finalement, si vous ne savez pas assez vite dans le début d'une relation comment fonctionne votre moitié avec l'argent, vous allez le découvrir au fil du temps. Vous allez vite voir, par exemple, que votre femme ou votre mari est systématiquement dans le rouge à la fin du mois et de plus en plus souvent dans le rouge. Vous allez voir que il fait pas ses courses comme vous, que là où vous regardez un peu les prix parce que vous êtes attentif, lui, il en a absolument rien à faire et il prend systématiquement le produit le plus cher. Et finalement, tous ces sujets-là vont devenir des sources de crispation. Ça veut pas dire qu'il faut pas se mettre ensemble parce qu'on n'a pas la même conception. Simplement, il vaut mieux le savoir au départ. Et ce que disent les thérapeutes de couple, c'est que quand on se rend compte très vite qu'il y a une grosse différence, il faut essayer de poser des règles. En réalité, et qui soit un petit peu à cheval entre les principes et l'éducation de l'un et l'autre, et de pas franchir certaines limites, ni dans un sens ni dans l'autre, pour essayer de se réconcilier et d'éviter au maximum les conflits.
Maître Élodie Bulon.
Je trouve que c'est intéressant, et le questionnaire, je viens de le voir, je le trouve intéressant aussi. On vit dans un système aujourd'hui assez hypocrite, c'est que quand on voit la difficulté du couple à même faire le contrat de mariage, dire si c'est séparation de biens, communauté, qu'au moment du divorce, il y en a toujours un pour dire « oui, mais j'avais pas compris ce que je signais », ce qui est sans doute vrai, parce que c'est tellement compliqué même de parler de ça. Même le notaire qui devrait quand même alerter les parties en leur disant « voilà ce que vous signez », le fait pas toujours aussi bien qu'il faudrait. Se dire que s'ils ont du mal à parler de ça, ils vont commencer à discuter de comment ils vont organiser leur vie sur le plan monétaire. Il y a du travail.
Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est que aujourd'hui, on a les derniers chiffres qu'on a, qui sont pas très récents malheureusement, disent qu'à peu près 85% des couples qui se marient sous le régime légal, qui est le régime de la communauté réduite aux acquêts. Or, quand vous vous mariez, le maire énonce en général 4 ou 5 articles qui régissent la vie commune et la façon dont on organise le couple. Mais il ne peut pas lire tous les articles du Code civil qui régissent le mariage. Et bien souvent, les personnes qui se marient sous le régime légal, c'est-à-dire la grande majorité, ne savent absolument pas ce que le Code civil a prévu pour elles. Et donc, elles tombent de leur chaise, en effet, le jour où elles se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de choses en commun que ce qu'elles imaginaient, que les dettes sont communes, que l'épargne est commune.
Élodie Mulon.
Alors, En fait, ce que dit le Lille-Mère, c'est le choix, c'est le régime primaire. Donc, c'est qui s'applique à tous les contrats de mariage, sachant qu'il le fait, j'ai envie de dire, trop tard, puisque forcément, le contrat de mariage, il se fait avant, dans l'effervescence de la robe de mariée, les invitations et tout ça. Donc, c'est un peu
quand
compliqué.
Il se fait.
Bonjour, il se fait.
Bonjour Noémie, vous appelez de Tours, bienvenue.
Oui, bonjour, merci.
Bienvenue. Alors, vous, est-ce que vous êtes mariée? Est-ce que vous avez ouvert un compte joint?
Alors, pour la petite anecdote, nous ne sommes pas mariés avec mon conjoint, bien que je sois organisatrice de mariage. Mais en l'occurrence, non, nous ne sommes pas mariés, nous ne le souhaitons pas. Et nous ne souhaitons pas vraiment entendre parler de notion de compte commun. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été très clair entre nous. Nous avons donc tous les deux eu les parents divorcés. Nous avons beaucoup entendu les histoires qu'il y a pu avoir d'argent au sein de nos parents, qui ont même eu un moment des activités professionnelles communes, et on a vu que ça a pu être vraiment de grosses sources de conflits avant, quand ils étaient mariés, et après le divorce. Et on a toujours souhaité s'éviter ça. Donc, depuis le début, ça va bientôt faire 10 ans, on a toujours tout divisé par deux. On n'a jamais eu de compte commun et on n'en aura jamais. Et même en ayant un enfant, il est hors de question d'avoir un compte commun. Et en fait, on a pris cette habitude d'absolument tout diviser par deux. Ce qui fait que ce que gagne l'un ou l'autre ne regarde pas l'un ou l'autre. Tout est complètement indépendant. Et on a vraiment le sentiment de s'éviter bien des conflits par rapport à ça, puisque chacun gère son argent à sa manière. On a l'impression que c'est une grande source de... qu'on s'apporte beaucoup de sérénité en faisant ça et qu'on s'évite bien des complications et des disputes.
Qu'est-ce que vous en pensez, Loïse Boll?
Alors, j'en pense que dans une situation où les deux travaillent, les deux ont des revenus à peu près équivalents, et où les deux ont leur nom sur les actes d'achat immobilier et sur les actes de remboursement de crédit, c'est une situation qui est très saine. En revanche, les notaires et les avocats, parfois, ont dû vous dire que sur le plan de la succession, si malheureusement il arrive malheur à l'un ou à l'autre d'entre vous, c'est une hérésie totale. Parce que quand vous vivez en union libre, pour la personne avec laquelle vous vivez, en réalité, aux yeux de la loi, vous n'êtes personne. Donc vous n'avez droit absolument à rien le jour où l'autre disparaît. Vous ne pouvez rien revendiquer, même si vous vivez avec lui depuis 40 ans. Ce qui est quand même un petit peu préoccupant. Et si jamais l'autre a eu l'idée quand même de vous désigner dans son testament, eh bien vous avez 60% de droit de succession. Donc, pendant la durée de l'union, ce genre d'arrangement, il est extrêmement sain et il fait que, en général, ni l'un ni l'autre ne se sent floué. S'il y a une catastrophe, c'est plus préoccupant.
Maître Élodie Milon.
Oui, le problème qui se pose en termes de succession est un problème qui est inhérent, effectivement, un peu opaque, c'est totalement à l'union libre, ça c'est clair. Mais le problème du conjoint en lui-même, du compte séparé et moitié-moitié, résout pas le problème parce que, alors. J'ai envie de dire, ces gens-là, de toute façon, ne se sépareront jamais devant la loi puisqu'ils font ce qu'ils veulent. Mais quand le couple fonctionne comme ça, la contribution, elle est supposée se faire à proportion des revenus respectifs. Et quand ils partagent comme ça en se disant, il n'y a pas d'histoire, en réalité, quand ils vont divorcer, il y en a un qui va dire, en fait, moi, j'ai toujours payé la moitié alors que je gagnais 10% de moins. Et là, il y a un conflit.
Noémie, nos spécialistes vous ont refroidi?
Non, alors, c'est vrai qu'on a pourtant acheté une maison, on est propriétaire, et donc effectivement tout est à nos deux noms. Et le notaire nous avait bien informé que en cas de décès, effectivement notre fille pouvait, donc si j'ai bien retenu, revendiquer la part qui serait donc à la personne restante. Bon, mais c'est vrai que malgré tout, même en sachant ça, ça ne nous donne pas envie d'officialiser plus les choses.
Continuez comme ça, Noémie. Continuez comme ça et donnez-nous des nouvelles de la gestion de votre argent dans le couple. Merci d'avoir appelé. Fabienne Kramer, on l'a entendu là avec Noémie, qui parle du divorce de ses parents qui a un peu conditionné la suite. Notre rapport à l'argent est conditionné par certains schémas parentaux. Soit on les reproduit, soit on fait exactement l'inverse.
Exactement, on voit bien qu'elle est un peu enfermée, si je peux me permettre, Noémie, dans l'histoire de ses parents, et qu'au final, ça dicte un peu son attitude aujourd'hui. Et moi, ce que je voudrais relever, c'est que je pense qu'au niveau du couple, hein, puisque moi, c'est le sujet qui m'intéresse, au niveau du couple, je crois que l'argent, il n'est que la symbolique de quelque chose qui ne va pas. Mmh. C'est-à-dire que quand tout va bien, en général, l'argent n'est pas un problème. On trouve toujours des raisons à l'autre. Ce n'est pas ce qui fait qu'un couple va aller mal, d'après moi. C'est parce qu'un couple va mal que l'argent, d'un seul coup, cristallise beaucoup de choses. En fin de compte, l'argent, ça nous parle de notre façon d'aimer. Si on est généreux, c'est qu'on est généreux en amour. Si on donne moins, c'est qu'on commence à donner moins d'amour aussi. Il y a plus que l'argent, c'est la générosité et la façon dont on s'adresse à l'autre qui est en question, je crois.
Allez, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Alexia Lacour avec Nicolas Beauve, et c'est réalisé par David Leprince. Parisienne interprétée, l'argent ne fait pas le bonheur.
J'ai une surprise pour toi. J'ai une promotion, je voulais te faire plaisir.
Grand bien vous fasse.
T'en as pas marre de me rabaisser comme ça, de me jeter ta réussite au visage?
Et moi aussi je peux t'acheter un cadeau, hein, bien plus cher que celui-là. C'est pas aujourd'hui que tu vas me castrer, hein.
Sur France Inter.
T'aurais un peu d'argent à me prêter, du coup?
10h30, on s'intéresse ce matin à l'argent dans le couple avec trois expertes. La spécialiste des questions d'argent, Héloïse Boll. La spécialiste du droit de la famille et du patrimoine, Maître Élodie Mulon. Et avec la spécialiste du couple, Fabienne Kramer. Nous recevons énormément de messages sur la différence de revenus au sein du couple, Héloïse Boll. C'est une source de conflit, évidemment.
Les sources de crispation, souvent, elles viennent des moments où il y a un déséquilibre qui s'installe en réalité. Donc, quand vous en avez un qui commence à avoir une ascension de carrière fulgurante pendant que l'autre fait un peu du surplace sur le plan financier, c'est pas tout à fait agréable, même si effectivement le code civil prévoit que chacun contribue à hauteur de ses moyens, c'est jamais très plaisant. Il y a d'autres situations qui sont déséquilibrées, par exemple la situation qui est malgré tout assez courante où l'un des deux a déjà un appartement ou une maison à lui et l'autre va s'installer chez lui parce que c'est une histoire d'amour qui commence, c'est merveilleux. Le problème, c'est que là, c'est est très déséquilibré en réalité. Il y en a un qui a tout et l'autre qui a pas grand-chose. Et donc, si l'autre ne met pas en place une épargne ou un réflexe régulier pour combler un peu ce déséquilibre, ça peut être compliqué.
Jessica nous dit, Noémie a raison, notre auditrice, tout partager de façon égale est une très bonne solution, mais encore faut-il le pouvoir. Mon conjoint gagne 3 fois mon salaire et l'argent est souvent sujet de conflit. Et Mélanie nous dit, avec mon conjoint, nous avons des revenus très différents et partageons toutes les dépenses selon un ratio. Chacun met 42% de ses revenus sur le compte commun. Élodie Mulon, avocate.
Mais... En fait, le système, ce système-là, il paraît vraiment équilibré aux gens quand ils sont dedans. C'est après qu'ils réfléchissent souvent. C'est pour ça que le conflit n'est pas... Alors, il peut naître pendant, hein. Il peut naître pendant, mais en fait, il sort souvent au moment où on se sépare, où les gens se disent, mais en fait, je me suis fait avoir pendant toutes ces années, il m'a vraiment pris, alors, ou pour un con ou pour une conne, ça dépend. Et du coup, ils sont très en colère. Il y a une espèce de colère rentrée qui n'est pas sortie. Quand on parlait tout à l'heure, c'est intéressant, du déséquilibre qui peut naître d'un qui réussit mieux que l'autre. En fait, ça naît souvent quand c'est la femme qui prend le dessus. En réalité, c'est intéressant encore aujourd'hui de voir quand l'homme, il progresse, globalement, on considère que c'est assez normal. Quand c'est la femme qui progresse, c'est vécu comme assez humiliant, alors c'est pas toujours le cas, hein, comme assez humiliant pour l'homme, voire assez castrateur. C'est assez et ça finit par un conflit souvent.
Fabienne Kramer, psychanalyste.
Oui. Alors, quand on parle de gens quand l'un gagne plus que l'autre, moi, je trouve que il faut pas oublier qu'en général, si l'un réussit sa carrière, c'est parce que l'autre s'occupe du reste, souvent. Et c'est justement, on parlait des pensions compensatoires. Et moi, je poserais bien une question à Maître Mulon, parce que moi, je vois au niveau de mes patients, il y en a très peu de femmes qui, en fin de compte, réussissent à avoir une pension compensatoire. C'est très rarement reconnu le fait qu'elles ont gardé la maison, je sais pas, voyager, traverser l'océan pour suivre leur conjoint et du coup dû mettre leur carrière entre parenthèses. Et au final, on sait quand même que le divorce est quelque chose qui précarise énormément les femmes, beaucoup plus que les hommes. Donc il y a en réalité cette histoire de pension compensatoire. Moi, j'en vois rarement la couleur. Enfin, pas pour moi, hein, je parle pour mes patients.
Oui, alors sur la prestation compensatoire, en principe, dès qu'il y a une disparité de revenus et de patrimoine et que l'un s'est sacrifié au bénéfice de l'autre, il y a une prestation compensatoire. Mais encore faut-il qu'il y ait une disparité, parce que on s'aperçoit parfois d'une femme ou d'un homme, mais c'est quand même encore 80% des cas les femmes, qui s'est sacrifiée et puis finalement qui au bout du bout soit a plus de patrimoine par sa famille, soit autant de revenus parce que ça s'est fait comme ça et du coup les critères ne sont pas remplis. Si les critères sont remplis, il y a une prestation compensatoire. La difficulté, elle n'est pas tellement sur le principe, mais sur les montants, parce que très souvent, les montants qui sont donnés ne permettent pas justement de réparer le préjudice lié à la cessation d'activité de la carrière.
Donc voilà, monsieur voudrait m'offrir un pendentif et moi je voudrais lui offrir une gourmette.
C'est très romantique.
Merci. On pourrait avoir une idée du prix ?
Oui, avec plaisir. Cela dépend du nombre de lettres du prénom concerné.
Ah ben cool, moi c'est Jean, 4 lettres, je vais pas le mener.
J-E-A-N. Et vous, votre prénom ?
Alexandra.
Très bien.
Excusez-moi, on t'appelle plus Alex, c'est vrai. C'est plus Alex en fait qu'on t'appelle.
Ah, très bien.
Bah oui, mais mon prénom c'est Alexandra, 9 lettres.
Oui, mais sur un pendentif, Alexandra c'est trop long, ça fait vulgaire. Alors qu'Alex, 4 lettres, c'est vrai que c'est mieux. Ça fait plus jeune quoi, il y a un côté plus.
Vas-y, mais elle aussi. Mais quel gros radin celui-là.
Mais ça n'a rien à voir, c'est une question d'esthétisme. Ça n'a rien à voir, ça, avec l'ardinerie. Non, c'est bien.
Attends, excuse-moi, c'est mon prénom, Alexandra.
Bon, écoute, on va couper la poire en deux. Alexandre, c'est bien, Alexandre. Alexandre, c'est sympa. C'est moins vulgaire qu'Alexandra et c'est moins cheap qu'Alex. Alexandre, c'est pas mal, Alexandre.
Bah oui, mais Alexandre, ça veut rien dire.
Bon, ok, c'est un pendentif, c'est pas un badge, ça va, merde. Tu connais ton prénom, je le connais aussi. Allez, Alexandre, c'est bon, on y va.
Extrait d'un gars et une fille, Héloïse Boll, je rappelle que vous publiez Les bons comptes font les bons amants et aussi les bons amis. Qu'est-ce qui se passe hein, quand une cigale s'engage avec une fourmi ? Il y a du conflit à la clé, forcément. La question de la radinerie qui revient quand même pas mal dans tous les messages que nous recevons.
Alors, si tel est le cas, il faut encore plus discuter du sujet, je pense. Parce que si c'est toujours le même qui paye tout ou qui paye les 3/4 des dépenses, c'est un problème. Donc c'est typiquement le genre de situation où il faudrait idéalement assez vite crever l'abcès.
Qu'est-ce que vous conseillez concrètement ? Quand on s'aperçoit, ben voilà, on est en couple et puis il y en a un qui est un petit peu radin et l'autre très dépensier, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On en parle autour de... Alors d'une
on
table.
En parle autour d'une table et idéalement on liste un petit peu les dépenses qu'on a chaque mois, les dépenses contraintes plus les dépenses courantes, la paire de baskets pour le petit dernier, le kilo de courgettes, etc.
Mais on le fait au début du couple. On le fait au début parce que ça paraît un peu mesquin.
On le fait le plus tôt possible. Ouais. Si on est dans une situation comme celle-là où très vite l'un a l'impression qu'il paye tout et que l'autre ne paye rien, il faut le faire rapidement, sinon ça va pas bien se passer.
Maître Mulon.
C'est assez drôle parce que c'est vrai qu'au moment donc on doit fixer la pension alimentaire, on s'aperçoit qu'il y en a un qui n'a absolument aucune idée des dépenses du couple. Moi, quand je demande à une de mes clientes, faites-moi le budget de ce dont vous avez besoin, elle me regarde comme si je lui demandais la lune. Mais genre, le DF, téléphone, enfin des trucs. Ben, elle ne sait pas. Alors, elle ne sait pas. Ou alors, souvent, c'est le père pour les enfants. La femme lui dit, voilà, j'ai besoin de ça pour élever les enfants. Elle lui donne un budget, il tombe sur la... Ben, je veux dire, il n'en revient pas. Voilà. Mais il n'y a absolument aucune discussion dans le couple sur les besoins et les charges.
Marie-Laure Sunshine, la femme actuelle.
Oui, justement, la répartition, elle va de soi, c'est presque navrant, mais on a l'impression que la femme paye tout ce qui concerne la maison, ouais. Le quotidien, les enfants au sens large. Et alors, je sais pas, le mari, c'est les factures nobles, effectivement, c'est les impôts locaux, parce qu'on parlera de l'impôt à la source tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a effectivement cette répartition de fait? Est-ce qu'il faut rentrer dans ce système-là d'emblée?
Alors non, il ne faut pas y entrer. Je crois qu'on est assez clair sur le fait qu'il faut vraiment discuter de tout et avoir quelque chose d'assez équilibré. Mais sur cette répartition, c'est effectivement souvent cette répartition qui prévaut, avec une difficulté, c'est qu'au moment de la séparation, les impôts, dans un régime de séparation de biens, celui qui a payé les impôts a une créance contre l'autre du montant des impôts payés pour lui. Donc c'est assez crispant comme discussion.
Héloïse Boll.
Ouais, c'est la répartition la plus dangereuse en réalité. Si vous êtes dans le schéma classique où Madame paye le panier de course, la ceinture de judo et les activités des enfants et monsieur rembourse l'appartement. Si vous êtes marié maintenant, il y a une espèce de protection. Si vous vivez en union libre ou en pax, la jurisprudence, d'après ce que je sais, n'est pas encore très, très affirmée là-dessus. Et celui qui paye le judo, le panier de courgettes et la paire de baskets prend de très, très, très gros risques. Il prend le risque que l'autre lui réclame finalement le remboursement de tout ce qu'il a payé et qui est tangible. Donc la répartition qui est quasiment obligatoire si on ne veut pas se retrouver sur la paille 25 ans plus tard, c'est de répartir les deux types de dépenses, c'est-à-dire un compte pour les baskets, le judo et les courgettes, et un compte pour l'immobilier et les impôts, et les deux contribuent aux deux comptes, parce que sinon, vraiment, il y en a un qui se retrouve avec ses yeux pour pleurer et l'autre qui rafle tout, c'est pas normal.
Pour aller dans votre sens, Laure nous dit sur notre page Facebook que dans mon couple, comme pour de nombreux amis, l'une des inégalités hommes-femmes qui persiste est le partage entre les dépenses sérieuses, entre guillemets, importantes, grosses facture impôt, souvent assumée par l'homme, et celle plus quotidienne, les courses, les vêtements enfants, le médecin, qui incombe encore souvent aux femmes et qui sont difficiles à faire valoir en cas de conflit profond ou non. Élodie Mulon.
Non, mais c'est tout à fait exact. Cette répartition, elle est vraiment extrêmement dangereuse. Alors, avec un bémol sur justement le financement du domicile conjugal, voire de la résidence secondaire, c'est qu'on considère aujourd'hui que c'est de la contribution en charge du mariage et que par conséquent, ça ne donne pas lieu à créance. Alors, créance, ça veut dire quand on peut demander de l'argent à l'autre, d'accord, en remboursement de ce qu'on a payé pour lui. Et alors, sur ce point, en matière de concubinage et donc de pacte, la jurisprudence est en train d'évoluer depuis ces 2-3 dernières années et considère que c'est une espèce de contribution en charge de. On ne sait pas trop quoi, puisqu'il n'y a pas de mariage, donc aux charges du ménage, et par conséquent, ne donne pas lieu non plus au remboursement de ce qu'on a payé pour l'autre.
Fabienne Kramer.
Alors, tout ce qu'on est en train d'évoquer, là, c'est que le fait qu'il y a une notion, peut-être, à mettre sur la table de la rémunération dans le couple, parce que, après tout, certaines femmes, donc, je le disais, ne gagnent pas leur vie pendant que les hommes gagnent leur vie, mais elles ont un travail. Et ça, c'est un sujet extrêmement tabou aujourd'hui, parce que si on commence à dire, ah ben oui, peut-être que les hommes devraient verser aux femmes, parce qu'il y a aussi toute la dépendance financière. Moi, j'ai des patientes qui peuvent pas aller chez le coiffeur sans demander à leur mari l'argent pour aller chez le coiffeur parce qu'elles ont plus rien à elles. Et c'est pas des femmes qui pour autant n'ont pas travaillé, c'est simplement que petit à petit ils sont partis dans une autre modalité. Elles ont plusieurs enfants, elles élèvent les enfants, c'est une tranche de leur vie comme ça. Et cette dépendance financière, moi je trouve que la notion de rémunérer et la pension compensatoire, c'est encore une notion de rémunération. Alors c'est vrai que ça, pour le coup, c'est très tabou de se dire, et si l'un rémunérait l'autre ?
Maître Élodie Mulon.
Surtout qu'il y a encore quelque chose de plus pervers. C'est le mari qui gagne très bien sa vie et qui dit à sa femme, tu ne vas pas travailler parce que ça va nous coûter trop cher avec les impôts. C'est plus économique si tu ne travailles pas. Et puis au moment de la séparation, il ne se souvient pas du tout qu'il a dit ça.
Bonjour Valérie, bienvenue. Vous habitez à Paris. Et vous nous avez dit hors antenne que l'argent a été la cause de votre divorce.
Tout à fait, oui. Personnellement, nous avons commencé notre vie commune tous deux par travaillant sur Paris de manière équitable. Moi, j'avais un poste de consultante dans un cabinet, lui était cadre dans une banque, jusqu'au jour où est arrivée une proposition d'expatriation en Asie, où nous avons vécu une douzaine d'années. J'ai donc dû sacrifier mon activité professionnelle. J'ai essayé de travailler, c'est un pays, c'est au Japon, donc on est obligé de vous dire que c'était pas simple pour moi de trouver une expérience professionnelle. Et donc j'ai réussi quand même, mais durant un court moment, et au fur et à mesure des années qui passaient, j'ai dû arrêter de travailler. J'ai demandé à ce qu'il s'est passé dans un pays anglo-saxon. Lui-même m'a dit oui, mais en fait, il ne souhaitait nullement déménager, puisque lui gagnait énormément d'argent qui me cache, en fait.
Alors Valérie, la liaison est vraiment trop mauvaise, mais vous nous avez dit donc au standard que votre mari, en fait, vous avez caché ses revenus exacts. Héloïse Boll, c'est une situation qui arrive souvent, la situation décrite par Valérie.
C'est une situation qu'on rencontre, je crois, beaucoup chez les avocats. En tout cas, c'est ce que ceux que j'ai interrogés m'ont dit. Il y a beaucoup de gens. Qui démarrent sans savoir combien gagne leur conjoint.
Ah, tout à fait. Il y a des gens qui ignorent totalement ce que gagne l'autre. Ce qui est quand même aussi étonnant de part et d'autre. C'est-à-dire, c'est quand même compliqué de vivre. Parce que ça présuppose quoi? C'est qu'on n'a jamais signé la déclaration de revenus, quand même. Alors, avec le système maintenant par Internet, c'est encore plus facile de cacher à l'autre ce qu'on a gagné. Mais c'est étonnant de poser la question, de dire, je sais pas, j'en ai aucune idée.
Qu'est-ce que ça change, le prélèvement à la source dans les couples, justement? Est-ce qu'il n'y a pas plus de transparence, entre guillemets?
On n'a pas assez de recul pour le dire. Sauf que si jamais ils font ça chacun de leur côté, ça ne va pas aller vers la transparence.
Alors j'ai une réponse, il n'y a pas forcément plus de transparence parce que la déclaration d'impôt se fait toujours de la même façon et il y a toujours beaucoup de couples dans lesquels il y en a un qui remplit et l'autre qui signe en bas sans regarder, avec les résultats dont on parlait tout à l'heure. En revanche, ça peut changer quelque chose sur le plan de l'équité. Avant le prélèvement à la source, vous aviez un taux d'imposition qui était commun. Je vous donne un exemple schématique. Contribuable 1 gagne 4000, contribuable 2 gagne 2000. Finalement, les deux étaient imposés comme un couple qui gagne 6000. Aujourd'hui, vous avez le choix d'appliquer un taux qui est un taux individualisé, c'est-à-dire que celui qui gagne 2000 peut être imposé comme s'il était seul et qu'il gagnait 2000 euros, et celui qui gagne 4000 est imposé dans ces cas-là comme s'il est seul et qu'il gagne 4000 euros. Ça veut dire qu'en gros, celui qui gagne moins ne paye pas les impôts de l'autre. Donc c'est finalement peut-être moins mélangé et plus équitable.
Bienvenue Sarah, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous nous avez dit hors antenne que votre notaire vous a donné un conseil.
Voilà, en fait, nous, au début, on avait une espèce de boîte dans laquelle on mettait les tickets, les factures, etc. Et on faisait les comptes à la fin. Moi, je gagnais moins, donc je mettais moins aussi sur les budgets de notre couple. On était deux au début. Et dès qu'on a acheté notre maison, moi, j'étais enceinte. Et là, la notaire a dit, vous êtes à quelle banque? Eh bien, écoutez, il y en a une à 3 mètres. Vous allez filer tout de suite ouvrir un compte commun. Parce qu'en cas de séparation ou quoi que ce soit, là tout va bien, vous êtes heureux, vous allez être papa et maman, etc. Et par contre, on voit toujours justement ces magnifiques couples heureux dans lesquels tout va bien, où l'amour est roi. Dès qu'il y a un souci, séparation, c'est juste l'horreur justement. Elle disait qu'il calculait le moindre centime et que là justement, il fallait qu'on puisse prouver tous les deux qu'on mettait chacun la moitié de la somme pour l'emprunt en fait.
Maître Élodie Mulon.
Alors c'est moins vrai, c'est plus prudent de faire comme ça effectivement, puisque ça évite d'avoir à retracer les sources de financement. Alors il y a justement un bémol quand même avec cette pratique, pas celle du conjoint mais de créance, avec la jurisprudence. Il y a aussi après aussi tout dépend du régime de communauté sur lequel on est. Et puis alors il y a des clauses dans le contrat de mariage qui interdisent, d'accord, de faire ces comptes d'apothicaire, en disant t'as dépensé ça, tant pis pour toi. En fait, il n'y aura pas de compte. Mais sinon, on a des procédures là-dessus de contribution aux charges du mariage.
À propos de régime matrimonial, est-ce que la séparation de biens a le vent en poupe?
Moi, je trouve que oui. Et alors, il y a notre régime qui est la participation aux acquis, c'est-à-dire on vit comme un régime de séparation, mais on se sépare comme dans un régime de communauté, qu'on voit de plus en plus qu'un régime assez intéressant et qui protège bien les époux.
Marie-Laure Sunshine.
Dans tous les cas, vous préconisez bien évidemment qu'il y ait un contrat de mariage. On dit toujours qu'un contrat de mariage, c'est un contrat de divorce.
Moi, ce que je regrette, c'est que les contrats de mariage n'aillent pas plus loin dans la prévision de comment fonctionne le couple. Donc oui, je pense qu'il faut vraiment un contrat de mariage. C'est vrai que c'est pas hyper romantique, mais en même temps, c'est plus organisé.
Héloïse Boll, il est impératif de conserver les preuves des principales dépenses. Ça peut paraître un peu mesquin, mais c'est essentiel, c'est nécessaire.
Ça me paraît essentiel. Il y a effectivement pas mal de choses dans le mariage qui protègent notamment les femmes quand elles ont payé uniquement le quotidien et que leur mari a payé la maison et les impôts. Il y a pas mal de choses qui les protègent. Néanmoins, c'est quand même effectivement beaucoup plus simple de pouvoir dire en telle année j'ai payé tant et j'ai les papiers et j'ai les preuves, plutôt que de s'en remettre finalement à la bonne volonté et du code civil et du juge. C'est plus simple.
Merci beaucoup hein, Sarah, de nous avoir appelé. Il est temps de retrouver les choses vues de notre psy préféré, Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Choses vues.
Les choses vues de notre psychiatre, Christophe André.
Alors, je bavardais l'autre jour finance avec une de mes filles, la plus insouciante des trois, celle pour laquelle je me fais parfois du souci, tant l'argent ne l'intéresse guère. Je m'efforçais de lui expliquer que c'était utile parfois de faire des économies pour pouvoir financer des projets, partir en vacances, acheter un équipement de sport ou juste faire face aux imprévus. Elle m'écouta poliment, puis me répondit « Tu as sans doute raison, mais ça ne m'intéresse pas trop, ces histoires. » Et, histoire de me décourager définitivement de lui délivrer des cours d'économie domestique, elle m'asséna avec un grand sourire « Et puis tu sais, papa, les linceuls n'ont pas de poche. Oh » Ça m'a coupé le sifflet. Et au lieu de me désoler ou de m'agacer, cette réplique me bouscula comme une épiphanie, comme une révélation. Au lieu d'y entendre une expression d'inconséquence ou d'insouciance, j'y entendais une forme de sagesse. Les linceuls n'ont pas de poche. Mince alors. C'est vrai, après tout. Du coup, non seulement je renonçais dans l'immédiat à poursuivre la discussion sur ce thème, mais surtout, dans les jours qui suivirent, je me mis à réfléchir sur mon propre rapport à l'argent, en comprenant que ma prudence et le souci d'avoir quelques économies au cas où étaient liés à mon passé et à mon anxiété, et que comme ma fille n'avait ni mon passé ni mon anxiété, il était donc logique qu'elle n'ait pas envie d'économiser. Mais mes réflexions ne s'arrêtèrent pas là. Je me remis aussi à songer, à aller savoir pourquoi, à la période de ma vie de psychothérapeute où je faisais des thérapies de couple et au rôle que l'argent y jouait alors.
Mariage d'amour, mariage d'argent, j'ai vu se marier toutes sortes de gens, des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires, quand même.
Tant que le couple s'aime, l'argent n'est le plus souvent qu'une source de friction ou de frottement bénin. Le porte-monnaie est comme le tube de dentifrice. On se chamaille pour des trucs bêtes parce que le conjoint ne referme jamais le tube de dentifrice après s'être brossé les dents ou parce qu'il ne note jamais sur le talon du chéquier à quoi correspondait le chèque détaché. D'ailleurs, à ce détail, vous voyez que mes dernières thérapies de couple datent d'il y a longtemps, du temps où on faisait des chèques en papier. Mais ce qui m'impressionnait le plus, c'était le rôle de l'argent dans les divorces et les séparations. C'est comme les infections en chirurgie. C'est de là que viennent toujours les ennuis, les complications, les suppurations, les surinfections de la plaie ouverte par la séparation. Chacun se met alors à recompter tout ce qu'il a donné et que l'autre n'a pas rendu, tout ce qui se chiffre est soupesé, évalué, et chacun réclame sèchement sa monnaie. Une fois que le voile de l'amour s'est déchiré, tous les petits défauts, tous les petits détails que l'on tolérait chez l'autre parce qu'on l'aimait deviennent insupportables. Quand l'affection et tout ce qui va avec elle, compréhension et pardon se retirent, alors les petits travers du conjoint deviennent des grandes névroses. Et on se demande Comment on a pu partager si longtemps la vie d'une personne aussi mesquine? C'est l'horreur, bien sûr, pour ceux qui se séparent, surtout pour eux d'ailleurs, mais aussi un peu pour le thérapeute qui réalise que les carottes sont cuites depuis longtemps. Car souvent, on vient trop tard en thérapie, à minuit moins 5 avant l'explosion. Et les plaies d'argent sont alors devenues mortelles. On devrait sans doute proposer un conseil psychologico-budgétaire à chaque jeune couple, mais ce ne serait pas très romantique, je le reconnais. Ou alors, offrir aux jeunes mariés ou pacsés, lors du passage à la mairie, un recueil d'aphorismes sur l'argent, où ils pourraient méditer ensemble, chaque soir, sur telle ou telle sentence. Comme cette remarque d'Oscar Wilde, « Quand j'étais jeune, je croyais que dans la vie, l'argent était la chose la plus importante. Maintenant que je suis vieux, je ne le crois plus, je le sais. » Et vous, chère Ali, ces histoires d'argent, dans notre couple amical, vous en tenez compte? Vous avez remarqué, par exemple, que quand nous allons prendre un café, c'est toujours moi qui paie?
Mais non.
C'est pas vrai, c'était pour faire une chute un peu accrocheuse, excusez-moi.
En tout cas, j'ai appris que vous aviez été thérapeute de couple.
Oui.
Moi
qui
vous connais si bien, j'en apprends chaque semaine, enfin tous les 15 jours, à votre contact. Allez, la chronique de Christophe André est à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse et sur le site de France Inter. L'argent dans le couple est-il un tue-l'amour? Dites-nous tout au 01 45 24 7000. Jones interprétait Wintertime.
Et tu sais bien que je t'aime.
Tu es incapable d'aimer autre chose que l'argent.
Grand Bien Vous Fasse.
Pas de cul, pas de fric.
Ah, elle me coûte cher cette petite romance.
Sur France Inter.
Allez, on s'intéresse encore quelques minutes à l'argent dans le couple à 10h54. Héloïse Boll, vous publiez Les bons comptes font les bons amants. Vous rappelez dans votre livre 10 règles d'or pour que le couple et l'argent fassent bon ménage. Est-ce que vous pouvez nous rappeler celles qui vous paraissent le plus important?
Alors la première, c'est d'en parler. Ça sert à rien de se mettre la tête dans le sable. De toute façon, plus on va attendre pour en parler, plus on va découvrir les choses au fil de l'eau et s'en irriter. Donc on met carte sur table, on en parle. Tant pis si c'est pas très facile et finalement on prend assez vite le pli. La deuxième, c'est ce que j'appelle le partage des tâches financières. Il n'y a pas dans un foyer quelqu'un qui est préposé aux courses et quelqu'un qui est préposé aux comptes. Il n'y a pas de gêne pour comprendre le fonctionnement d'une déclaration d'impôt. Il ne faut pas un diplôme spécifique pour comprendre comment fonctionne un crédit immobilier. Quand il y a des dépenses importante, on s'y penche à deux. On ne dit pas « non mais toi t'es beaucoup plus à l'aise avec les chiffres, donc je te laisse faire, je te fais confiance ». Il faut savoir ce qui se passe dans les finances de son couple. Il faut savoir combien gagne l'autre, il faut savoir combien on emprunte, combien on met de côté et combien on déclare aux impôts. C'est très important. Une règle un peu plus pragmatique, c'est d'essayer d'ouvrir un compte joint pour tracer les dépenses importante et donc avoir savoir d'où vient l'argent à chaque fois de l'un, de l'autre, qui a apporté quoi. Ça évite les malentendus plus tard.
Trise nous dit, je suis sidérée par ce que j'entends. Vos interlocuteurs félicitent ce qui s'est partout à l'euro près. Pourquoi donc n'envisagez-vous pas que des couples soient heureux en mettant absolument tout en commun? Élodie Mulon.
Alors, ça c'est extrêmement drôle parce que on s'aperçoit dans la pratique, et c'est quasiment toujours le cas, les époux mariés en régime de communauté ont des comptes séparés. Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ont des comptes joints. C'est vraiment extrêmement amusant. Et en fait, ils ne comprennent pas quand ils sont mariés en régime de communauté qu'en fait, tout est à tout le monde. Donc, on préconise pas systématiquement que tout soit séparé. On demande, et je crois que c'est ce qu'on a dit ce matin, que tout soit équilibré et qu'on en parle. Si c'est pas équilibré, il faut discuter pourquoi ça n'est pas équilibré. En fait, la solution, c'est la communication.
Fabienne Kramer, on a une poignée de secondes pour conclure avec vous.
Oui, juste sur le témoignage qui vient de se passer, peut-être qu'en effet, on n'a pas envie d'en parler quand tout est beau, quand tout va bien et on réglera le problème après, même si c'est pas la logique, je dirais, financière, ça peut être aussi une logique amoureuse, parce qu'il faut pas oublier que l'amour, c'est quelque chose qui, l'argent, je veux dire, dans l'amour, ça peut faire aussi mal qu'une trahison, aussi mal qu'une tromperie. C'est du même ordre. En particulier l'argent caché.
Merci beaucoup. Merci, Héloïse Boll. Votre livre, Les bons comptes font les bons amants, c'est publié au Cherche Midi. C'est bourré de conseils et de conseils pratiques. On peut le lire aussi quand tout va bien, pour anticiper.
Même mieux.
Merci Élodie Mulon du Conseil National des Barreaux. Merci Fabienne Kramer. Demain, on s'intéresse aux nouvelles méthodes éducatives en provenance des États-Unis. Qu'est-ce qui peut être importé sans difficulté? Nous recevons Véronique Dupont, l'auteur de Super Kids. Merci également, bien sûr, à Marie-Laure Sunshine et Christophe André à la technique ce matin, Kevin Pelot et à Laure Cochet.